Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage consacré ce soir à la situation dans les prisons d'Équateur. Le président du pays, Guillermo Lasso, a décrété l'état d'exception dans l'ensemble des centres pénitentiaires du pays pour une durée de 60 jours. Des agents de police ont été attaqués par balle samedi par des détenus de la prison de Guayaquil dans le sud-ouest de l'Équateur. C'est là que près de 118 personnes sont mortes mardi dernier, dont 6 décapitées dans des affrontements entre prisonniers. Il s'agit du pire massacre de l'histoire carcérale d'Amérique latine. Alors comment expliquer cette explosion de violence? Un tel scénario peut-il se reproduire dans d'autres prisons équatoriennes et plus largement dans la région? Et que peuvent les États face à ces violences récurrentes? On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Jean-Jacques Kourlianski.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous dirigez l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Alors depuis ces événements à la prison de Guayaquil en Équateur, les forces de l'ordre disent avoir repris le contrôle du centre pénitentiaire. Mais d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel a été l'élément déclencheur de toute cette brutalité?
Bon, alors, tout d'abord, je crois qu'il faut une petite explication, un décryptage, pour reprendre le titre de votre émission. C'est vrai que lorsque cette dépêche, cette annonce est tombée, ça fait un effet de choc. 118 prisonniers morts au cours d'un affrontement à l'intérieur d'une prison, l'armée mobilisée, 2-3 000 militaires, l'état d'exception. Donc on se demande, mais qu'est-ce qui se passe en Équateur? Donc je crois qu'il faut replacer cet événement dans son contexte. Et le contexte, est-ce que depuis le 1er janvier en Équateur, 237 prisonniers sont morts au cours de différents affrontements à l'intérieur donc des centres pénitentiaires. Et notamment en janvier, 74 prisonniers étaient déjà morts dans 4 centres pénitentiaires. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs explications. Alors, c'est toujours assez compliqué dans des questions comme celle-là de savoir exactement qu'est-ce qu'il s'est passé. D'après les déclarations du gouvernement, qui ont été reprises par les organes de presse et certains chercheurs, il s'agirait d'affrontements entre deux groupes rivaux à l'intérieur des centres pénitentiaires de l'Équateur, aujourd'hui, le 28 septembre comme au mois de janvier, et le contrôle du trafic de stupéfiants serait à l'origine de ces affrontements. Alors, ce qu'il est possible de dire, c'est que effectivement, en Équateur, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, on assiste depuis quelques années à ce genre de dérive, des conflits extrêmement violents dans les prisons colombiennes, dans les prisons du Salvador, au Mexique, au Brésil, au Venezuela, entre groupes rivaux, et qui sont particulièrement sanglants, puisque dans ce cas-là, 5 prisonniers ont été décapités, et on s'est aperçu qu'il y avait des armes à feu à l'intérieur de la prison.
Et effectivement, les armes à feu, c'est un des éléments de ces violences. On va tout de suite écouter à ce propos la commandante générale de la police équatorienne. Elle s'appelle Tania Varela. Elle s'est exprimée dimanche aux côtés de la ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse qui a été retransmise sur Facebook. On l'écoute tout de suite et on commentera juste après.
Le travail de la police nationale a un seul objectif, reprendre le contrôle au sein du centre pénitentiaire du littoral et maintenir l'ordre dans toutes les prisons du pays. Durant notre intervention, 13 armes ont été saisies, parmi lesquelles 6 fusils et 7 pistolets, 1136 munitions de différents calibres, 250 armes blanches, 5 grenades, 60 téléphones portables et 6 kilos de drogue. Nous ne nous sommes pas reposés un seul jour depuis la crise du 28 septembre et nous allons continuer à fournir tous les efforts nécessaires et possibles pour prévenir la violence.
Jean-Jacques Kourlianski, comment est-ce que toutes ces armes, elles rentrent en prison?
Bon, c'est la corruption. Et puis là, on touche à un autre problème qui est vrai en Équateur, mais dans les autres pays d'Amérique latine, c'est que les budgets qui sont affectés aux centres pénitentiaires ne sont pas particulièrement abondés par les gouvernements. Et donc, on assiste à une détérioration de la situation à l'intérieur des prisons qui ne facilite pas la coexistence entre ces différents groupes de prisonniers. Pour vous donner un chiffre, il y avait déjà eu des problèmes depuis 2-3 ans dans les prisons équatoriennes. Un budget avait été affecté de plus de 38 millions de dollars en 2019, et sur ces 38 millions de dollars, simplement, donc pour des raisons d'austérité, le Covid, etc., 3 à 4 millions ont été effectivement utilisés. Donc c'est pour vous dire le déficit qu'il y a dans ces prisons qui sont surpeuplées, comme d'autres en Amérique latine. Hein. Donc ce qui s'est passé, c'est pas simplement le fait qu'il y ait des affrontements pour le contrôle du marché de la drogue en Équateur et dans les prisons, mais c'est aussi le fait de la détérioration de la gestion des centres pénitentiaires par le gouvernement équatorien.
Et effectivement, vous parlez du problème de la surpopulation carcérale. Pour donner un chiffre et pour rebondir sur ce que vous dites, il y a actuellement 65 prisons en Équateur, elles sont prévues pour 30 000 détenus, elles en accueillent près de 40 000, donc on se rend bien compte de la disproportion entre les moyens et la réalité.
Alors, je voudrais ajouter un élément pour revenir à la première partie de l'entretien. Dans ces combats entre les différentes factions, il y a souvent des parrains, des gens qui essaient et qui arrivent finalement à apaiser les conflits entre différents groupes. Et l'un des parrains de la drogue en Équateur, Jorge Luis Zambrano, a été tué en décembre 2020 dans des circonstances non éclaircies. Et c'est depuis son assassinat, son décès, qu'on assiste à une détérioration de la situation à l'intérieur des prisons comme à l'extérieur.
Et alors, on a pu lire dans la presse que ce qui s'était passé, les événements de la prison de Guayaquil en Équateur, étaient liés avec les cartels mexicains de Sinaloa et de Jalisco Nueva Generación. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'influence de cartels mexicains dans ces prisons équatoriennes, alors qu'il y a quand même plusieurs pays qui séparent l'Équateur du Mexique?
Oui, alors l'Équateur, effectivement, n'est pas un pays producteur de drogue comme la Colombie et le Pérou, mais c'est un pays de transit. Un pays de transit, on estime qu'un tiers de la production de coca colombienne finit en Équateur, où il est réexpédié vers le nord, vers les États-Unis ou vers l'Europe. Et il se trouve également qu'il y a un élément intéressant. Bon, il y a des ports en Équateur qui sont plus ou moins sous la surveillance de la police, mais là aussi, et de la police des ports, mais il y a aussi des déficits. Mais il y a des communautés équatoriennes importantes aux États-Unis comme en Europe, en Espagne. Donc ça fait plusieurs éléments intéressants. Et donc, comme depuis la destruction des grands cartels de la drogue en Colombie, la main est passée du côté mexicain, donc ce sont effectivement les cartels mexicains comme des multinationales, bon, qui sont illicites, illégales effectivement, mais bon, qui ont pris en main ce marché où il y a des producteurs, des consommateurs, il y a du transit, etc. Donc ils viennent chercher et réexpédier la drogue là où elle se trouve. Donc elle se trouve en Colombie, éventuellement au Pérou, et au milieu, il y a l'Équateur. Donc c'est devenu, ces dernières années, ça a été un élément aggravant de la situation sécuritaire en Équateur.
Effectivement.
Et donc les deux cartels que vous citez sont parmi les deux plus importants actuellement, qui plus est, qui sont en dispute l'un avec l'autre ou avec d'autres au Mexique. Et donc cette division se retrouve dans les groupes délinquants en Équateur.
Et alors justement, à ce sujet, une avocate équatorienne, Itania Villarreal, qui est donc l'ancienne directrice de l'agence en charge des prisons, a dit ceci à nos confrères de l'agence France Presse: les groupes criminels contrôlent aujourd'hui les prisons du pays et tentent d'envoyer le message à l'État qu'ils sont plus forts que l'État de droit. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Bien, alors c'est toujours difficile d'avoir des jugements aussi abrupts. Ce qui est certain, c'est que l'argent et le profit est le moteur d'action de ces groupes, et lorsqu'ils ont besoin d'un service quelconque, à l'intérieur des prisons comme à l'extérieur, ils utilisent l'argent, le dollar, le billet vert. On s'en est aperçu en 2018 en Équateur, lorsqu'un ancien capitaine des services de renseignement équatorien et qui avait démissionné des forces armées avait été acheté entre guillemets par le cartel de Sinaloa. On l'a retrouvé d'ailleurs assassiné dans sa prison déjà en 2018 par des représentants équatoriens qui travaillaient avec le cartel mexicain concurrent. Donc ce qui est important là dans cette information, c'est de voir qu'un capitaine des services de renseignement de l'armée équatorienne avait été acheté par un cartel. Mais c'est des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres pays latino-américains. On les a vus en Colombie, on les constate aussi au Mexique, au Venezuela et ailleurs.
Alors après cet épisode de violence dans la prison de Guayaquil, le gouvernement équatorien a annoncé l'envoi de 3600 policiers et militaires en renfort pour essayer de rétablir la sécurité et le calme. Mais finalement, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on est face à un problème qui est transnational, un problème qui dépasse en fait les capacités de l'État équatorien.
Bon, alors tout à l'heure, je vous citais un chiffre, un engagement budgétaire qui n'a pas été tenu. Alors, l'une des conséquences de cet engagement budgétaire qui n'a pas été tenu, c'est qu'on estime à plusieurs milliers, alors c'est variable selon les sources, mais un minimum de 3000 gardiens de prison qui font défaut. Alors, lorsque l'État équatorien se trouve en difficulté, il envoie les forces armées. Alors, il les envoie pendant quelques jours, pendant quelques semaines, donc là, ça sera pendant 2 mois, et dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté fin septembre dans cette prison de Guayaquil pourra se répéter dans une autre prison, probablement du sud de l'Équateur, puisque ce sont surtout les côtes et les régions côtières qui sont concernées par ces phénomènes.
Et le président Guillermo Lasso a décrété l'état d'exception donc dans toutes les prisons du pays. Très concrètement, cet état d'exception, qu'est-ce qu'il implique pour les détenus?
Pour les détenus, ils vont être sous la surveillance des militaires, de l'armée, et pas simplement des gardiens de prison. Donc il y a de la part du gouvernement équatorien, le constat que les gardiens de prison ne sont pas en nombre suffisant. Leur fiabilité laisse à désirer, puisqu'on a trouvé des armes, des téléphones portables dans la prison. Et donc, le recours, c'est l'armée. Avec le bémol que je vous signalais, c'est en 2018, il y a eu un militaire qui a été acheté par les cartels de la drogue qui se trouvait lui aussi dans cette situation-là. Donc l'armée est fiable, mais relativement.
Alors je voudrais qu'on écoute un extrait de la prise de parole de la ministre de l'Intérieur, Alexandra Bella. Elle s'adresse notamment à la justice. Écoutez ce qu'elle dit.
Para todos es conocido.
Tout le monde sait que cette situation est le produit des conflits territoriaux et de leadership entre les organisations narco-criminelles qui opèrent dans le cadre de pression. Le gouvernement du président Guillermo Lasso ne tolérera pas que les prisons et les rues du pays soient contrôlées par le crime organisé transnational. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour affronter et combattre ces organisations criminelles. Nous exigerons aussi une intervention décisive de la part de la justice afin que la loi soit appliquée, que des enquêtes soient menées et que les responsables du massacre du centre pénitentiaire du littoral soient punis.
Que se investigue y sancione a todos los responsables de la masacre ocurrida en la penitenciaría del litoral.
Voilà, on entend donc la ministre équatorienne de l'Intérieur dire « Nous exigeons une intervention décisive de la part de la justice ». Est-ce qu'en règle générale, des enquêtes sont menées lorsqu'il y a des explosions de violence de ce type?
La justice, on peut faire les mêmes remarques que celles qui ont été faites sur les gardiens de prison, sur les policiers, sur les forces armées. On peut faire les mêmes remarques à la justice. La justice devrait être hors de tout soupçon. Le constat que l'on peut faire dans ce genre de situation-là, c'est que c'est plus ou moins vrai. Moi, ce qui me frappe dans la déclaration de la ministre, c'est qu'il n'y a aucun engagement budgétaire. La situation dans les prisons équatoriennes pourrait être certainement très améliorée si il y avait un nombre de gardiens de prison suffisant.
Oui, et si l'on pour l'instant, on est à un gardien de prison pour à peu près 26 détenus.
Hein. Oui, au lieu de, paraît-il, que les normes internationales, c'est 1 pour 9. Donc on en est très loin. Et d'autre part, l'un des problèmes vient aussi de ce que l'on met ensemble des personnes qui appartiennent à des clans, à des groupes opposés, ce qui génère évidemment des situations de conflit. Donc il faudrait avoir des prisons qui permettent de séparer ces gens-là et donc faire des travaux, avoir des engagements budgétaires. Et moi, ce qui me surprend dans cette déclaration de la ministre, c'est qu'elle fait une déclaration de ministre à l'Intérieur, qui sont toujours des déclarations va-t-en-guerre, mais où est l'argent de la guerre ?
Vous parlez d'argent, quand même, à son arrivée au pouvoir, le président Guillermo Lasso a annoncé un plan d'investissement de 75 millions de dollars pour justement améliorer les infrastructures pénitentiaires.
Ben, son prédécesseur avait annoncé également 38,8 millions de dollars, mais on les a pas vus.
Quoi. On les a pas vus.
Il y a eu 15% qui ont été, 10-15% qui ont effectivement été utilisés. Alors il y a un effet d'annonce, donc là aussi on a un effet d'annonce, mais compte tenu des séquelles de la Covid-19, du contexte international, des économies latino-américaines, on peut douter que l'État équatorien soit en mesure de donner une priorité à la situation budgétaire, à la situation dans les prisons.
Vous parliez du Covid-19. Est-ce que la pandémie a pu aussi contribuer à accroître les tensions entre détenus?
Oui, il y a un centre pénitentiaire.
En Équateur et ailleurs,
d'ailleurs. Il y a des centres pénitentiaires où les prisonniers ont été et les personnels ont été affectés par la Covid-19. Je crois que c'est le centre pénitentiaire d'Ibarra, qui par ailleurs, c'est aussi un reflet de la situation générale. Il y a quelques mois, plus de 200 détenus ont été victimes d'intoxication alimentaire compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d'argent, donc on leur a donné des aliments périmés. Donc ce qui était un reflet de la détérioration croissante de la situation du quotidien dans les centres carcéraux de l'Équateur.
Mais justement, cette détérioration du quotidien des détenus dans les centres carcéraux et la violence qu'elle entraîne, est-ce qu'elles ne peuvent pas constituer une menace pour l'État ? Est-ce qu'elles ne peuvent pas déstabiliser les États en Équateur et ailleurs en Amérique latine ?
Non, enfin, l'Équateur n'est pas dans la situation de la Colombie, encore moins du Mexique aujourd'hui. Hein. On a des taux d'homicides par 100 000 habitants qui sont encore en deçà de la moyenne latino-américaine. Alors il y a évidemment ce point chaud qui constitue la situation dans les prisons, mais hors des prisons, on ne note pas une situation encore, pour l'instant, enfin, on ne sait jamais, à la mexicaine. Donc, après tout, les prisonniers ne votent pas. Ils sont souvent montrés du doigt comme étant les méchants pour la société, et donc leur accorder une priorité budgétaire aux prisons, ça me paraît assez improbable pour le futur. Alors à chaud, effectivement, les responsables politiques et les responsables gouvernementaux tiennent des propos martiaux, puisqu'il y a les télévisions, donc il y a l'image internationale de l'Équateur, donc il faut tenir la distance, répondre.
Oui, c'est ça, on a le sentiment que finalement les politiques réagissent lorsqu'il y a
terme, d'autant plus que le président vient d'être élu. Hein, il y a eu des élections. Il a été élu le 11 avril dernier. Donc, je ne vois pas très bien comment et pourquoi la situation dans les prisons constituerait une priorité budgétaire.
Jean-Jacques Kurlianski, est-ce qu'il y a des États d'Amérique latine où des solutions ont été trouvées pour justement endiguer cette violence carcérale ?
Écoutez, là, vous me prenez de court. Je pourrais plutôt vous faire la réponse inverse, c'est-à-dire qu'on a des situations similaires à celles de l'Équateur constatées dans la plupart ou dans la quasi-totalité des pays d'Amérique latine, donc où il y a régulièrement des explosions qui sont dues au confinement, à l'absence de gardiens, des armes qui sont à l'intérieur des centres pénitentiaires. Des groupes qui sont mélangés, et donc on a là des réalités qu'on constatait au mois de septembre en Équateur qui sont aussi qu'on peut aussi constater dans la quasi-totalité des autres pays d'Amérique latine où il n'y a pas vraiment de priorité budgétaire pour ces questions-là.
Merci beaucoup Jean-Jacques Kurlianski d'avoir été en direct avec nous. C'était le décryptage du jour. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique Latine à la Fondation Jean Jaurès. Merci également à Claude Battista qui était à la réalisation technique et à Éléonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission. Décryptage revient demain à la même heure, 17h10, temps universel. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter en podcast sur notre site rfi.fr et sur l'appli RFI. RFI Pure Radio. Dans quelques instants, place au débat du jour, ça sera en compagnie de Romain Zouy. Très belle soirée à vous sur la Radio du Monde.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Priorité santé.